Il court, mon psychiatre, il est passé par ici, il repassera par là, et voilà. Toutes les émissions de France Inter ont fait venir des psychiatres. Des psychiatres, et encore des psychiatres. La France serait-elle le dernier pays stalinien? Hein?
Voilà, ben bonjour à tous. Voilà, j'ai téléphoné un syndicat au hasard pour savoir où et à quelle heure avait lieu la manifestation demain contre les emplois précaires. C'est de savoir aussi combien de contrats différents existent. Y a-t-il des charges sociales? Donc voilà, apparemment, il y en a à peu près plus de 6 contrats différents qui existent. Les charges sociales, apparemment, il y a beaucoup d'exonérations, retraite, santé, URSSAF, précaire, plutôt chômage. Au-delà des étudiants et des syndicats, moi, je pense qu'on est tous concernés. Je veux plus dire qu'il y a des gens qui bougent à ma place. Alors, on voudrait qu'on nous nous laissons pas endormir par nos bulletins de vote en 2007, ni par les sondages. Si on le pense, eh bien, il faut qu'on se bouge, parce qu'on est chacun d'entre nous est concerné. Pour les uns, il y a les vacances scolaires. Eh bien, ne faites pas les mollusques devant votre télé. Bougez-vous, retrouvez votre dignité. Pour les autres, il y a le boulot et les crédits. Comme quoi, la consommation nous empêche d'exprimer votre citoyenneté. Moi, Lisiane, je serai à Tarbes à la Bourse du Travail à 10h30 pour manifester demain. Merci, au revoir.
Bonjour à tous, Jocelyne de Lyon. Qu'il fut bon ce matin, lundi 6 février 2006, d'entendre des auditeurs à l'esprit critique, aiguisés, intervenir dans Radio-Com sur France Inter à 8h40. Face au discours sirupeux et faussement ouvert du ministre d'Oust-Blasi et moraliste du journaliste Bernard Guetta, j'ai eu l'impression, une fois de plus, que la démocratie était grippée avec au moins 42 fièvres. Grâce au talent des auditeurs, nos deux pseudo-diplomates, pseudo-pédagogues entêtés et esquiveurs de réponses aux questions pour le ministre d'Oust-Blasi se sont trouvés le dos au mur. Finalement, ce sont les questions des auditeurs qui ont de l'intérêt, car les réponses des politiques, nous les connaissons par avance.
Oui, bonjour Daniel. Je vous appelle en ce qui concerne la publication des caricatures concernant le prophète Mahomet. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui avancent maintenant la liberté d'expression. Moi, je me rappelle de l'affaire de la chaîne libanaise El Manar. Quand elle a diffusé un film égyptien concernant la création de l'État d'Israël, beaucoup de gens l'ont trouvé antisémite et choquant. Monsieur Perlelouche, député à la tête d'une délégation, a été voir monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour faire fermer et faire disparaître la chaîne de tous les satellites qu'on recevait en Europe et en France. Monsieur Pierre Lelouch avait dit à l'époque, la liberté d'expression a des limites qu'il ne faut jamais dépasser. Il y a des traits rouges qu'il ne faut jamais dépasser. Quand ça offense un peuple, quand ça touche à l'histoire d'un peuple, il faut agir. Et il a réussi à faire fermer cette chaîne, enfin, sur le territoire français et européen. Aujourd'hui, on dit la liberté d'expression n'a pas de limite, alors qu'on a offusqué une nation qui compte 1,5 milliard de personnes. Moi, je dis la liberté d'expression, oui, mais offenser, abaisser, traiter toute une religion, toute une population, toute une nation de terroristes, je dis non, basta. Il faut réfléchir. Et il faut quand même être raisonnable. Merci. C'était Hassène de Lyon. Au revoir.
Voici une pensée de saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, à méditer. Timeo hominem unius libri. Je crains l'homme d'un seul livre.
À propos de religion, savez-vous quelle est la dernière parole de Jésus sur la croix? Vite, un clou, je glisse.
Salut, c'est Philippe de la CGT Spectacle à Clermont-Ferrand. Et bien là, on est devant un bâtiment qui s'appelle la Jetée, qui est un bâtiment où le ministre de la Culture, René de Medvedeva, donne actuellement une conférence de presse, qui est à Montferrand, c'est le festival du court-métrage. Et là, et ben, on va dire qu'on est une bonne cinquantaine d'intermittents. On a essayé de rentrer, mais là, comme il y avait au moins autant de flics que nous, on n'a pas pu. Mais quand même, on lui chante des petites chansons, et ces petites chansons, c'est quoi? Et bien, ces petites chansons, et bien, c'est des citations de ce qu'il a raconté, comme ça, pour nous endormir pendant des mois et des mois, et pendant ce temps-là, les gens sont dans la misère. Alors voilà, alors je vais vous donner à écouter un petit peu les paroles qui sont bien sympathiques. Hein. À très bientôt, salut.
Voilà, ça c'est un reportable, ça s'appelle, c'est un reportage avec un portable, et pas mal, hein, quand même, avec un tout petit portable qu'on a dans sa poche, hop, on est au courant de ce qui se passe à Clermont-Ferrand, mais on va être au courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde, aujourd'hui, puisqu'on est avec l'équipe du Monde Diplomatique, vous savez, comme chaque mois, on se retrouve le premier ou deuxième lundi du mois, avec l'équipe du Diplo, et il va être question, bien évidemment, des caricatures, il va être question, ah, ça c'est très intéressant, du CPE, bien évidemment, demain, grande manif contre le contrat de première embauche. Il semble que ça va chauffer en dépit de toutes les stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement. Un petit message un peu personnel à une auditrice dont on a diffusé le message vendredi, un message assez long d'une infirmière de la région de Toulouse qui était un peu en galère. Et il y a eu beaucoup d'auditeurs et d'auditrices pour dire donnez-nous ses coordonnées, on va l'appeler, on va lui donner un coup de main, etc. Sauf que la dame en question, l'auditrice en question, n'a pas laissé ses coordonnées. Si elle m'écoute, qu'elle veuille bien nous donner son numéro, si elle le souhaite, au 01 56 40 37 37. Donc, encore quelques messages, et puis le diplôme.
Bonsoir. À Clamart, la cité de la Plaine, petits immeubles bien entretenus, pelouses, arbres, les mois d'octobre et novembre dernier n'ont pas vu de voitures brûlées. Ceci est dû en partie à La Joie par les Livres. La Joie par les Livres est une bibliothèque pour enfants qui est un modèle en son genre, visité pour s'en inspirer par des gens du monde entier. Le mois dernier, des Australiens, l'impératrice du Japon elle-même est venue. Or, à la suite d'incompréhension de part et d'autre, peut-être d'une partie de bras de fer entre la mairie propriétaire des lieux et le ministère de la Culture qui salarie la directrice, il a été décidé brutalement de fermer la bibliothèque, qui est un lieu merveilleux, le 4 février. Les habitants du quartier, qui veulent absolument garder leur bibliothèque ouverte, occupent les lieux depuis samedi après-midi. Peut-être faut-il les encourager.
Hey Daniel, bonjour, Gérard de Lille. Ce petit message pour rappeler la réunion des amis de Là-bas si j'y suis, ce soir à Lille, le 6 février, au repère Café Bar Tabac Les Comtes des Flandres, 51 rue de la Monnaie, 59 000 Lille. Le site est précisé sur le site de Là-bas si j'y suis. Voilà.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Voilà, j'appelle parce que je suis enseignante dans une petite école élémentaire de Saint-Denis Et ce matin, dernier jour avant les vacances, j'ai appris qu'un de mes élèves de 8 ans, scolarisé depuis la maternelle en France, est en sursis. Et oui, en sursis, parce que sa famille a reçu l'injonction de quitter le territoire sous 15 jours. Son père travaille, sa mère étudie et assiste à toutes nos sorties scolaires, mais voilà, ils n'ont pas les papiers qu'il faut. Après le choc et la consternation, vient la colère. Que dire à mes élèves, à ses camarades? Comment expliquer à ses enfants et à cet enfant qu'il va devoir partir? Eh bien non, l'école se mobilise, les parents aussi. La situation est inadmissible. Cet élève a sa place parmi nous, ses parents sont chez eux, dans leur quartier. Alors nous nous accrochons et nous nous battrons. Non, ils ne partiront pas.
Eh ben ouais, salut, c'était encore Philippe de CGT Spectacle à Clermont. Eh ben figure-toi que ça y est, RDDV, il est reparti. Alors il est reparti bien sûr entre deux rangées de flics, hein, parce que voilà, qu'il fallait bien me protéger, mais il a fallu qu'il reparte entre deux rangées de flics quand même, voilà. Et puis nous, eh ben ça nous a filé la patate, figure-toi, et je crois bien qu'on va pas s'en arrêter là. Alors à très bientôt, salut à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec le monde diplomatique. Alors, je suis un peu surpris, chers amis du monde diplomatique, aucune caricature dans votre journal, alors que toute la France, l'Europe et les pays civilisés publient des caricatures qui font certains dégâts. Quelle est la raison ?
Nous publions une très belle caricature de Pier Paolo Pasolini dans ce numéro de février. Mais effectivement, pas les caricatures dont on parle, sur lesquelles d'ailleurs on peut s'interroger. C'est vrai qu'il y a comme ça toute une unanimité pour vanter le courage qu'il y a à reprendre ces caricatures de la presse danoise. Mais bon, on peut s'interroger. C'est-à-dire, c'est évident que chacun est pour la liberté d'expression. Mais nous savons tous, et en particulier ceux qui sont là à claironner leur défense de la liberté d'expression, que la liberté d'expression aujourd'hui, essentiellement en Europe, elle n'est pas menacée par des lois. Elle est essentiellement menacée par ce qu'on appelle la concentration du capital des médias. La plupart des médias dominants appartiennent à quelques propriétaires qui limitent la liberté d'expression.
Vous voulez dire que ces caricatures sont des caricatures de liberté d'expression?
Je trouve que ces caricatures, si vous voulez, moi je pense que le courage en matière de caricature, ça consiste à s'en prendre aux tabous ou aux, disons, aux éléments sacralisés de l'intérieur de sa propre culture. Par exemple, ces caricaturistes danois, je me demande s'il ferait des caricatures de la reine du Danemark, ou s'il ferait des caricatures de Luther, c'est un pays protestant, ou des caricatures autour de, disons, d'éléments de l'histoire récente de l'Europe et qui sont devenus pour nous sacrés. Par exemple, il est évident que nous considérons, nous, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacré dans la dénonciation de l'Holocauste, par exemple. Par exemple, est-ce qu'il ferait une caricature autour d'Auschwitz ? Je pense que il y a, dans la liberté d'expression, il y a un certain nombre de limites qui sont les limites marquées par, lorsqu'on, au-delà de la personnalité qu'on caricature, lorsqu'on... disons, on insulte, effectivement, ou ça peut être vécu comme une insulte, une grande quantité de personnes qui appartiennent à une autre culture. Tant que l'on fait des caricatures, non, tant qu'on s'exprime avec liberté critique à l'intérieur d'une ère culturelle, eh bien, là, on fait preuve de courage. Quand on va caricaturer des personnalités ou des éléments d'une autre culture, très souvent, on a une vision caricaturale, c'est le cas de le dire, de cette autre culture. Je veux dire, pendant très longtemps, nos caricaturistes en Occident ont présenté, par exemple, les peuples noirs d'Afrique comme des anthropophages, par exemple, sans pourtant considérer que il y avait là une transgression particulière. Ils faisaient en quelque sorte de l'ethnographie naturelle. Bon, il est évident que c'était une insulte à l'égard des civilisations africaines. Hein. Donc, par conséquent, c'est toujours très simple et on ne sait plus où passe la frontière entre liberté d'expression et tout simplement racisme, voire islamophobie.
Dominique Vidal.
Deux remarques. La première, à propos du journal danois qui a publié ces caricatures, qui, bien plus tard, bien après leur publication, ont provoqué les réactions qu'on connaît. Ça n'est pas Charlie Hebdo, ça n'est pas un petit journal de caricature. C'est un grand journal danois qui est l'équivalent du Monde ou du Figaro. Alors je pose la question, est-ce qu'on a vu à la une du Monde ou du Figaro des caricatures impliquant Jésus, impliquant Moïse, impliquant Bouddha? Non, ça ne se fait pas. Donc il y a un problème, non pas de liberté d'expression, mais un problème de savoir avec quel esprit de responsabilité on pratique la liberté d'expression, et si elle est toujours à sens unique. Deuxième remarque qui me paraît plus importante, moi je crois que cette affaire est l'illustration de ce que nous appelons le danger, le piège, le danger majeur du choc des civilisations. On sait très bien, nous ici autour de cette table, que la grille de lecture de Huntington visant à décrire les désordres du monde comme résultant des cultures en conflit, et notamment du conflit entre le christianisme ou le judéo-christianisme et l'islam, c'est une grille de lecture absurde. C'est pas comme ça qu'on peut expliquer les désordres du monde. Les désordres du monde, ce sont des questions nationales frustrées, des peuples qui n'ont pas leurs droits, que ce soit les Palestiniens, les Tchétchènes, les Tibétains, etc. Ce sont les inégalités croissantes aggravées par la mondialisation. C'est ça qui fait le désordre du monde. Mais ce raisonnement, qui est parfaitement valable, je crois, comme ça, en théorie, il se heurte au fait qu'on rentre quand même dans le choc des civilisations parce qu'on nous y fait rentrer, comme on fait rentrer un pied dans une chaussure trop étroite de force. Et je crois qu'il y a là un grand danger. C'est-à-dire, le danger, c'est si, pour des centaines de millions de musulmans, l'Occident, c'est Abu Ghraib. Ce sont les tortionnaires américains d'Abu Ghraib. C'est ça, l'Occident. Ou pour des centaines de millions d'Occidentaux, l'islam, eh bien, ce sont Ben Laden ou les attentats kamikazes. Si on arrive progressivement à faire rentrer la planète dans cette espèce de détau-là, alors on en a pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que les luttes des peuples vont être écrasées dans une espèce de situation impossible où il faut choisir entre deux formes de barbarie et deux formes de terrorisme que sont George Bush pour le symboliser et Ben Laden pour le symboliser aussi. Et je pense que ce qui s'est produit avec les caricatures, c'est ça. C'est-à-dire à partir d'un acte que j'estime personnellement un acte plus d'irresponsabilité que de liberté, on a provoqué, et bien des gens se sont organisés pour le provoquer, de part et d'autre, on a provoqué une situation où, effectivement, voilà, qu'on vient brûler le drapeau français, y compris à Gaza, là où l'immense masse des Palestiniens sait combien la France a pu, pendant un temps en tout cas, être active aux côtés des Palestiniens. Donc on arrive à brouiller les cartes et, effectivement, à provoquer un choc qui est lu et ressenti comme un choc de civilisation.
Alain Grèche, ça nous amène au reportage que vous, c'est un reportage que vous publiez ce mois-ci dans le Monde diplomatique sur l'Arabie saoudite. Donc kaléidoscope, donc image incertaine, on va dire, ni noir ni blanc. Du point de vue justement de l'Arabie saoudite, par exemple, les réactions à ces images.
Écoutez, l'Arabie saoudite a été en tête de la manipulation, je dirais, de cette controverse. Ils ont intérêt, je veux dire, les régimes arabes ont intérêt à faire ça pour des raisons évidentes. C'est-à-dire qu'il est plus facile de faire pression sur le Danemark que de faire pression sur les États-Unis. On aimerait bien voir une pression équivalente des régimes arabes sur le Washington quand Washington aide Israël et refuse dans les faits la création d'un État palestinien. Donc il y a, c'est évident qu'il y a une manipulation des deux côtés. Moi j'étais la semaine dernière au Qatar, donc j'ai rencontré beaucoup de journalistes du monde arabe. Encore une fois, les choses qui sont sacrées pour nous ne le sont pas pour eux. Par exemple, chaque fois qu'on parlait de ces caricatures, ils me disaient, mais vous avez interdit la critique de l'Holocauste et Roger Garaudy. Donc il y a aussi, il faut prendre en compte, je veux dire, une vision du monde qui est différente, des priorités qui sont différentes, et très vite ça peut, comme Dominique l'a dit, se transformer en guerre de civilisation. Sur l'Arabie Saoudite, bon, c'est la quatrième fois que j'y vais, et cette fois-ci, j'ai été plus que d'autres fois, peut-être, confronté à une difficulté. Je dirais qu'il est presque, finalement, ce que les lecteurs du monde diplomatique attendent que j'écrive sur l'Arabie Saoudite, est-ce que la réalité de l'Arabie Saoudite...
Qu'est-ce qu'ils attendent?
Non, je crois qu'ils attendent...
Ils attendent wahhabisme...
Non, à juste titre, ils attendent...
Oppression des femmes.
Une chose qui est dénonciation du wahhabisme, dénonciation d'un régime allié aux États-Unis, qui est une partie de la réalité. Mais quand on est sur le terrain et qu'on voit que c'est une société qui évolue, qui est une société dans laquelle il y a des combats internes, il y a des combats des femmes, il y a des combats de différentes forces sociales, etc. Il y a des évolutions. Comment rendre compte de ces évolutions sans gommer l'autre réalité? Et comment être écouté, je dirais? Moi, je suis frappé quand je discute de ça, ou des fois d'autres questions qui sont liées à cette région, à quel point c'est difficile d'être écouté. Notamment sur l'Arabie Saoudite, ça se résume à une chose qui est vraie, c'est la décapitation, c'est la peine de mort appliquée, bon, sous une forme qui est... plus brutale que la chaise électrique, mais enfin, qui est, bon, une forme qui est aussi exercée aux États-Unis. Une ségrégation des femmes telle qu'il n'y en a pas dans d'autres pays. Et un régime où, jusqu'à présent, en tous les cas, tout le pouvoir, enfin, politique était aux mains de la famille royale. Comment arriver à parler de ça, pour apporter quelque chose de nouveau dans une société qui bouge? Parce que ce qui m'a frappé depuis que je vais dans ce pays, c'est, effectivement, les transformations sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80 à 90% des gens vivent dans les villes. Ça s'est passé en une génération. Le fait que les gens qui vivaient sous la tente sont devenus des... j'ai rencontré un médecin, par exemple. Il était né dans les années 70 sous une tente et il était médecin. Et je veux dire, c'est un bouleversement social, mais aussi individuel, qui est très difficile et qui rend parfois les gens un peu schizophrènes entre des aspects de modernité que nous connaissons et puis des liens familiaux, tribaux, etc., très très forts. Donc voilà, c'est une difficulté réelle, hein, je ne la sous-estime pas et je ne sous-estime pas les réactions qu'il peut y avoir à ce type de papier. En même temps, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des sociétés. Je dirais d'une certaine manière, mais c'est évidemment pas comparable, on pourrait comparer à l'URSS des années 80 ou 70. C'est-à-dire où toute l'attention était focalisée sur le bureau politique, la hiérarchie, qui était numéro 1, numéro 2, et on avait l'impression d'une société immobile. Et quand la perestroïka a éclaté, personne ne l'avait prévu d'abord, et puis tout le monde s'est dit, mais attends, d'où ça vient? Comment cette société qu'on avait présentée comme tellement fermée a-t-elle réussi en 10 ans à se transformer comme ça? Et je crois que, bon, encore une fois, ça, le parallèle, il est évidemment il est un peu provocateur, mais les éléments de transformation de ces sociétés existent. Et c'est important de montrer qu'il y a des forces qui se battent pour changer les choses, notamment chez les femmes. C'est-à-dire, c'est notamment, il y a une volonté des femmes d'accéder au travail, d'accéder à l'université. Je dis toujours, mais la moitié des étudiants en Arabie Saoudite, 55%, c'est des étudiantes. Alors, en même temps, les universités sont ségrégées. C'est-à-dire qu'il y a des universités pour femmes, pour étudiantes et pour étudiants. Mais il y a l'ensemble de ces réalités, quoi. C'est-à-dire, bon, et évidemment, ça se heurte à tous les conservatismes. Et les conservatismes, il faut faire aussi attention, parce que les conservatismes, des fois, ne sont pas seulement ceux du pouvoir, ils sont ceux de la société elle-même. C'est-à-dire, c'est pas habituer la société à ce que les femmes... puissent aller à l'université, puissent travailler, puissent voter, puisque la grande nouveauté, c'est que dans les élections aux chambres de commerce, qui sont les élections les plus libres, parce qu'il y a plusieurs listes, il y a vraiment des débats, etc., non seulement les femmes ont pu voter pour la première fois, mais elles ont été candidates, et il y a eu des femmes élues. Il y a aujourd'hui, le gouvernement nomme des femmes à la tête de délégations à l'étranger, ce qui, pour nous, apparaît comme des choses normales, mais qui, là-bas, est une révolution. Alors, en même temps, il y a évidemment des courants très réactionnaires et très... Encore une fois, je termine là-dessus, c'est pour un journaliste, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est un vrai défi. Et je dirais encore plus dans le monde diplomatique, peut-être qu'ailleurs. Parce que, encore une fois, c'est pas ce à quoi s'attend le lecteur. Et il peut, à juste titre, je comprends d'ailleurs, réagir en disant « Mais attendez, vous êtes en train de d'embellir un régime qui, par ailleurs, a des aspects tout à fait condamnables. »
Alors on continue avec le autour du numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci, de ce mois de février. Je dis autour parce que on va parler du Proche-Orient. Il y a un papier de Dominique Vidal sur Sharon. Comment on a sanctifié un criminel de guerre,
ou
comment
embaumé
un criminel de guerre. Mais bon, depuis, c'est un peu l'histoire a avancé. Il y a eu le résultat des élections et le Hamas est arrivé en tête dans les territoires et ça bouscule quand même les choses.
Oui, mon ami Michel Warshavsky a fait un très beau papier que j'ai lu dans la presse israélienne où il dit qu'en fait la victoire du Hamas c'est la dernière œuvre d'Ariel Sharon. Parce qu'au fond, c'est exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire arriver à une situation où on ne rendrait plus que la moitié de la Cisjordanie et encore, et la bande de Gaza, et surtout on ferait en sorte qu'il n'y ait plus de direction nationale palestinienne, mais des petits chefs locaux divisés. Et c'est vrai que un des risques de la victoire du Hamas, c'est pas dit que ça se passe comme ça, c'est qu'on ait une situation d'éclatement de la société politique palestinienne. Et donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Cela dit, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la grande difficulté qu'il y a eu en France à interpréter la victoire du Hamas. On a l'impression que les journalistes étaient un peu perdus, compte tenu des images qu'on a. C'est-à-dire, on fonctionne avec des étiquettes, et quand... les étiquettes volent en éclats, évidemment, ça fonctionne pas. Moi, je crois, la première chose qu'il faut dire, c'est que le Fatah a payé sa corruption, ses divisions, son incapacité à gérer toute cette situation depuis un certain temps. Deuxièmement, que le Hamas a su donner de lui-même le meilleur visage possible. Par exemple, on a parlé beaucoup moins de charia que de social dans le discours du Hamas. On a parlé beaucoup moins de lutte armée que de mobilisation. On a parlé non pas de destruction d'Israël, comme c'est écrit dans leur charte, mais de trêve, et de trêve de longue durée avec Israël. Donc, il y a eu à la fois un effet de détérioration de l'image du Fatah et d'amélioration de l'image du Hamas. Plus, et c'est ça l'essentiel à mon avis, le fait que les Palestiniens ont voulu dire, me semble-t-il, que ça faisait 30 ans qu'on les menait en bateau, qu'effectivement, depuis 1974, Arafat, il faut lui rendre cet hommage, au moment où on embaume Ariel Sharon, embaumons au moins aussi Yasser Arafat, il a été à l'Assemblée générale des Nations unies, avec d'un côté le fusil, de l'autre le rameau d'olivier, et il a ouvert la perspective de deux États, d'un État palestinien, non pas à la place d'Israël, mais à côté d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu toute une série d'avancées du côté palestinien de cette conception. Et en face, il n'y a pas eu de partenaire. C'est en face qu'il n'y a pas eu de partenaire. On a fait Oslo. Et Oslo, on a cru qu'on allait vers ça. Et puis, l'assassinat de Rabin. Et... Bref, les Palestiniens, je crois, ont d'abord voulu dire, nous voulons une véritable paix et pas cette espèce de négociation infinie qui jamais ne repose sur le droit international. Contrairement à ce qu'on a pu croire, la communauté internationale, et notamment l'Union européenne, ont très bien entendu. C'est-à-dire qu'après des premières réactions brutales, on a bien senti qu'il allait falloir faire avec le vote des Palestiniens, la décision des Palestiniens. Et de ce point de vue, je crois que quand on regarde les choses, il faut moins se fixer sur la charte du Hamas, qui mériterait certainement d'être amendé, parce qu'il y a dans la charte des choses qui ne sont pas acceptables du point de vue du droit international, mais il faut surtout voir comment le Hamas va gérer sa victoire, à la fois en Palestine et avec ses relations avec Israël, avec la communauté internationale. Et de ce point de vue, moi je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui pèsent dans le sens d'une conduite responsable.
Oui, Dominique Vidal, ça va quand même être difficile pour les mouvements de soutien aux Palestiniens, je pense en France, de continuer de le faire avec cette domination du Hamas quand même.
Sauf si le Hamas se comporte comme on peut espérer qu'il se comporte. Il y a une première chose très importante. Ça n'est plus maintenant un parti d'opposition, c'est un parti au pouvoir. Il est responsable de la situation de l'ensemble des territoires palestiniens, et c'est à cela qu'il sera jugé par les Palestiniens dans leur vie quotidienne. Il y a un chômeur sur deux aujourd'hui, il y a 75% des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Les gens jugeront le Hamas au fait que cette situation change ou non. Deuxièmement, il faut bien qu'il gère, le Hamas, la relation avec Israël, avec la communauté internationale. Et on sent déjà, d'ailleurs, dans les déclarations qui sont faites par toutes les tendances du Hamas, y compris celles qu'on dit les plus dures, on sent la volonté de trouver un langage qui permette une négociation. Mais surtout, on n'a pas regardé, comme d'habitude d'ailleurs, ce que les Palestiniens ont dit. Les sondages valent ce qu'ils valent, y compris en Palestine, mais je profite que Serge Halimi n'est pas là pour en citer un. Dans le sondage qui a été fait le lendemain du vote, qu'est-ce qu'on constate ? 84% des Palestiniens sont favorables à une paix avec Israël, contre 16%. 25% seulement estiment que le Hamas doit garder la destruction d'Israël dans sa charte, contre 75% qui sont pour que le Hamas change cet article. 86% sont pour que Mahmoud Abbas reste à son poste, contre 14%. 81% souhaitent un gouvernement Hamas-Fatah. Et surtout, quand on demande aux Palestiniens pourquoi le Hamas doit-il se mobiliser, quelles doivent être ses priorités, il n'y a que 3% qui disent pour l'application de la charia. En clair, les Palestiniens n'ont pas voté ni pour la charia, ni pour le djihad, ni pour les attentats kamikazes. Ils ont voté pour une manière plus forte de conduire la négociation en vue de la paix, mais d'une paix juste, d'une paix fondée sur le droit. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, loin de couper les vivres aux Palestiniens, ce qui serait une décision criminelle, enfin, comment faire payer aux enfants, aux hommes, aux femmes de Palestine l'aboutissement d'une impasse dont tous nous sommes responsables, je veux dire. Mais non seulement ça, je crois qu'en plus, l'Union européenne devrait prendre l'initiative d'un nouveau plan de paix sur lequel on permette aux uns et aux autres de se situer. Vous me demandiez, vous me disiez, mais les élections israéliennes du 28 mars, moi je constate, c'est encore des sondages, c'est pas des résultats d'élection, que contrairement à ce qui avait été dit, la victoire du Hamas n'a pas bouleversé du tout les intentions de vote, affirmées en tout cas par les électeurs israéliens. Le parti centriste créé par Sharon est toujours loin devant, le parti travailliste est plutôt en progrès, et le parti Likoud, qui aurait dû profiter de cet événement majeur, ouais, eh bien, il se traîne à 13 sièges sur 120.
Ça veut dire que les Israéliens, hein, si on accorde de l'importance à ces sondages, ne sont pas si effrayés que ça par l'arrivée du Hamas. Le Hamas est insoluble dans l'exercice du pouvoir.
En tout cas, la majorité d'entre eux, immédiatement, quand ils ont été interrogés, ont dit qu'il fallait négocier avec le Hamas. Que la solution, c'était de faire avec la situation telle qu'elle est et d'essayer de relancer une recherche de paix qui permette... Je crois que les deux opinions sont lasses. Les deux opinions ont envie d'en finir avec ce conflit. Et c'est ça la chance, d'ailleurs. C'est pas dans les appareils politiques la chance. C'est dans ce désir de paix.
Ignacio Ramonet ?
Oui, une remarque à propos de ceci et des réactions, encore une fois, des médias occidentaux. Il faut savoir très bien ce qu'on veut. Car quand ces élections en Palestine se préparaient, l'ensemble des chancelleries et l'ensemble des médias mettaient l'accent sur la qualité démocratique de l'élection. Il fallait à tout prix que des observateurs internationaux soient présents, veillent sur le terrain. On insistait sur la nécessité que ce soit vraiment et vraiment des élections démocratiques. Or, elles l'ont été. Ces élections sont démocratiques. Et, par conséquent, on voit bien que revendiquer des élections vraiment démocratiques, on le fait essentiellement pour les Palestiniens, mais on se garde bien de le faire dans les autres pays. Pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas des élections aussi démocratiques, par exemple, en Égypte, où on ferme les yeux ? Parce qu'on sait que des élections vraiment démocratiques en Égypte porteraient au pouvoir aussi des islamistes. Parce qu'on sait que de vraies élections démocratiques en Jordanie porteraient au pouvoir aussi probablement des islamistes. On l'a bien vu d'ailleurs en Algérie, où il a fallu faire un coup d'État militaire soutenu par tout l'Occident pour éviter que les islamistes l'emportent. Donc finalement, je veux dire, quand on est trop exigeant sur le plan démocratique, on n'est pas content du résultat, comme ça s'est passé d'ailleurs en Irak. Et quand on ne veut pas du résultat, on ne fait pas d'élection démocratique. Hein. Donc c'est un tour de passe-passe qui finit vraiment par irriter un observateur, disons, objectif.
Alain Grèche.
Et pour aller dans le sens de ce que disait Ignacio, qui continue à irriter les opinions dans le monde arabe. Moi, j'étais, donc, je disais là-bas, il y avait des dizaines de journalistes de toutes tendances. Je veux dire, ils étaient outrés par les positions de l'Union européenne, qui posaient une série de conditions uniquement au Hamas. Et ils disaient, mais enfin, vous nous demandez la démocratie, mais la démocratie, c'est-à-dire de voter pour les gens pour qui vous voulez qu'on vote. C'est quand même incroyable. Et ça crée un vrai fossé. Et encore une fois, c'est un fossé qui contribue à discréditer les idéaux démocratiques sur lesquels nous nous battons.
Dominique Vidal.
Juste un mot de plus pour dire qu'on voit là, dans cette question du Hamas et des élections, l'intérêt du monde diplomatique. Je veux dire, l'électeur du monde diplomatique.
Voilà, la page non, de publicité.
Non, c'est pas seulement ça, parce que c'est une question de fond. C'est-à-dire, pour le français moyen informé par TF1, Libé et d'autres, le français moyen pense que le Hamas, c'est le djihad, c'est le hijab, c'est la destruction d'Israël, point barre. Le lecteur du diplo sait que, évidemment, que le Hamas est un mouvement islamiste, dont le but à l'origine était l'islamisation de la Palestine. D'ailleurs, à l'époque, il ne s'intéressait pas à la libération de la Palestine, il s'intéressait qu'à l'islamisation de la Palestine, qu'elle soit occupée ou non. C'était pas son problème majeur, disons, sa priorité. Mais le lecteur du diplo sait aussi que le Hamas a évolué, parce qu'on en a souvent parlé, que c'est moins un parti religieux qu'un parti social, qu'un parti national, que petit à petit, il est devenu un grand parti palestinien qui a une dimension religieuse, mais dont cette dimension n'est pas la dimension dominante. Et de la même manière, le lecteur du diplo sait combien les dirigeants israéliens ont largement utilisé, favorisé, voire même manipulé le Hamas, à la fois en le finançant, en le laissant se développer. Il faut savoir...
En le finançant ?
Mais bien sûr. Il faut savoir que Cheikh Yassine, qui a été le principal dirigeant du Hamas, assassiné par Israël dans les conditions qu'on sait récemment, par Sharon... On dit que c'est un criminel de guerre, c'est un criminel de guerre. Il a aussi fait assassiner un certain nombre de gens qui n'avaient été évidemment pas jugés et encore moins condamnés à mort. Mais Cheikh Yassine, au début, il faisait partie des Fils du Village, qui était une organisation créée par Israël pour essayer de diviser les Palestiniens, de combattre le mouvement national. Donc, dans le diplo, le lecteur a pu lire tout ça au fur et à mesure des années. Et c'est utile au moment où les événements se précipitent pour comprendre que ce qui arrive au pouvoir, c'est pas Mahomet avec une bombe sur la tête.
Tu m'as convaincu de lire le diplôme, Dominique.
On va parler avec Anne-Cécile Robert sur l'Afrique. Je ne sais pas, est-ce que le lecteur du diplo, Anne-Cécile, sait, sans doute, puisqu'il sait tout visiblement, le lecteur du diplo sait tout, est-ce qu'il sait que la France se désengage de son précaré, au moins au niveau des affaires, au niveau du business ?
On publie une enquête, effectivement, ce mois-ci, de Barbara Vigneault et Anne-Valérie Haut sur le redéploiement et le désengagement des entreprises françaises en Afrique. C'est vrai que ce que les gens entendent le plus souvent, qui est une réalité, malheureusement, c'est les dégâts de la France-Afrique, c'est-à-dire ce fameux système que François-Xavier Verchat avait si bien dénoncé, de collusion de l'économique et du politique qui faisait que les entreprises françaises contribuaient au soutien de régimes autoritaires en Afrique. Cette réalité perdure malheureusement. Cela dit, elle commence à avoir du plomb dans l'aile. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, à un redéploiement des cartes, une redistribution des cartes en Afrique, redistribution des cartes au sein de laquelle les entreprises françaises sont pas très bien positionnées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, où du point de vue de l'investissement direct étranger, la France se classe derrière aujourd'hui les États-Unis, le Royaume-Uni et même les Pays-Bas. Ce désengagement des entreprises françaises, il a pour cause en particulier un intérêt croissant pour les pays de l'Est. Mais aussi, il a pour cause la concurrence des entreprises américaines et chinoises qui, de plus en plus, taillent des croupières aux entreprises françaises. Et puis, il y a un phénomène sur lequel il faut qu'on s'interroge aussi, c'est le rejet de plus en plus important dont la France et les entreprises françaises font l'objet en Afrique, parce qu'il y a un passé qui est lourd, un passé néocolonial, c'est-à-dire que depuis les indépendances, on a maintenu des entreprises qui étaient de véritables lobbies politiques, qui, comme Elf, faisaient des coups d'État, soutenaient des réseaux. Et les gens commencent, en Afrique évidemment, à vouloir se débarrasser de ça. C'est une des clés d'ailleurs de la crise en Côte d'Ivoire. Les opinions publiques rejettent tout ce qui est français, parce que c'est l'expression de ces réseaux de soutien économico-politique qui ont été préjudiciables non seulement au développement des pays souvent, mais de la démocratie surtout. Et en Côte d'Ivoire, on voit les entreprises françaises se faire prendre les marchés dans le cacao, dans le pétrole, et on voit les gens dans la rue avec des pancartes appelant les États-Unis à la rescousse. C'est un mouvement, hein. Ça ne veut pas dire que les entreprises françaises disparaissent d'Afrique, mais disons qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, une sorte de redistribution des cartes. Il faut voir au service de quoi. Effectivement, que les logiques de domination économique disparaissent, on ne peut que l'approuver. Mais le devenir de l'Afrique, c'est ce que montre aussi le papier, n'est pas forcément très gai, puisque les entreprises qui remplacent les entreprises françaises ne pratiquent pas un capitalisme ni plus social, ni plus démocratique que les entreprises françaises. Donc tout reste à faire.
Continue avec ce qu'il n'y a pas dans le monde diplomatique de ce mois-ci, c'est bonus, c'est le plus. Le CPE, demain, mardi, il y a une manifestation contre le CPE, et tout indique que malgré tout, malgré les manœuvres gouvernementales, malgré les vacances, il semble que la mobilisation risque d'être importante.
Oui, ce mardi 8 février risque d'être le début d'une mobilisation importante. Il n'est pas certain que ce sera la seule manifestation. Il y en aura sûrement pas mal d'autres. Là, le gouvernement français tente un coup de poker, un coup de politique intérieure, mais qui s'inscrit en fait dans une logique européenne. Le gouvernement Villepin est en train de réaliser les réformes, entre guillemets, qui sont préconisées en permanence par la Commission européenne, qui sont inscrites dans la stratégie dite de Lisbonne et qui sont chaudement appuyées par la presse financière anglo-saxonne. Alors, Il y a chez Dominique de Villepin un art assez éblouissant de faire l'inverse de ce qu'il dit lorsqu'il annonce hier sur une radio et que c'est l'acte le plus social jamais entrepris, avec une apparente conviction, il se moque du monde, puisque ce contrat première embauche, que d'autres baptisent plutôt contrat précarité-exclusion, et avec sans doute beaucoup plus de raisons, est un élément majeur du démantèlement systématique entrepris de longue date du Code du travail. Et les jeunes qui seront pas seuls dans la rue demain un peu partout en France l'ont parfaitement compris. Effectivement, techniquement, apparemment, c'est un contrat à durée indéterminée. Mais c'est un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié, je dirais, n'importe quand pendant 2 ans. Donc, comment peut-on parler de stabilité de l'emploi lorsque un jeune entre dans la vie et qui sait que du jour au lendemain, il peut être viré de son emploi sans aucune forme d'explication. Alors, cet élément n'est pas le seul, puisqu'on va en faire autant pour les seniors, les gens de plus de 57 ans. L'idée, c'est d'insécuriser la totalité, d'introduire l'insécurité dans tous les niveaux de la société. Ça a d'ailleurs été théorisé par des gens du MEDEF, par Denis Kessler, qui a fait l'éloge du risque permanent qui serait créateur d'innovation, de dynamisme, etc. Alors qu'on sait, toutes les études le montrent, que c'est bien le contraire. C'est au contraire la sécurité qui permet à chacun, une fois qu'il est débarrassé de ce problème de survie économique, de se donner à plein, y compris dans son entreprise.
Et au capitaliste, de s'enrichir aussi dans la stabilité.
De s'enrichir aussi, bien sûr, peut-être légèrement.
Il faut leur dire que ça revient au même.
Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. Et en plus, ce contrat première embauche ne va créer strictement aucun emploi. Ce ne sont pas des emplois véritablement aidés. Il y aura des emplois s'il y a des raisons d'avoir des emplois. Un employeur n'embauche pas uniquement pour profiter d'un vague effet d'aubaine, même si ceci existe. Donc là, c'est un sujet majeur, c'est un tournant d'ailleurs dans le gouvernement Villepin, un tournant majeur pour souder dehors sociaux de pratiquer la politique la plus antisociale jamais vu depuis que je m'intéresse à la politique.
Voilà, Ignacio Ramonet, il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on évoque rapidement le dossier que vous consacrez à l'Amérique latine, qui est un des domaines où le monde diplomatique est très présent, et puis qu'on parle aussi d'un grand article sur la cartographie. La cartographie, on dit, j'ai une carte aujourd'hui avec les techniques modernes, satellites, etc. C'est quelque chose de précis, je peux me fier à la carte qui est là, qui est au mur, et le diplôme nous apprend, le lecteur du diplôme va apprendre qu'il ne faut pas se fier non plus aux cartes de géographie et que la carte de géographie relève aussi bien de la science que de l'art. Et ça c'est passionnant. C'est-à-dire que par le choix des couleurs, des graphismes, de la mise en scène, de la mise en page de sa carte, le cartographe, comme n'importe qui, traduit ou trahit parfois ses idées et ses intentions. Alors on commence par la carte de l'Amérique latine.
On dit un mot sur l'Amérique latine. Il y a un grand dossier, bien sûr. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui autour de l'Amérique latine en raison de tous ces gouvernements, en quelque sorte, ces élections qui choisissent des dirigeants de gauche. On l'a vu récemment au Chili avec Madame Bachelet, on l'a vu en Bolivie avec Evo Morales. Il y a une espèce de vague comme ça rouge qui est en train de recouvrir l'Amérique latine. Ça peut d'ailleurs se prolonger parce qu'il y a des élections dans très peu de temps au Pérou, il y a des élections en Colombie, il y a des élections au Nicaragua, etc. Et au Mexique, bien sûr, et au Brésil, et au Venezuela d'ailleurs à la fin de l'année. Donc Il y a une actualité, c'est une année très marquée par les élections en Amérique latine. Là, il y a un dossier en particulier sur un certain nombre de points, notamment sur la déroute du projet ALCA, c'est-à-dire l'idée de créer une ère de libre...
ALBA contre ALCA.
Voilà, ALBA contre ALCA, c'est-à-dire un peu l'alternative bolivarienne, ce que propose le président Chavez, où on mise davantage sur les échanges de productions locales en pariant sur l'enrichissement mutuel, c'est-à-dire avec un projet gagnant-gagnant, et au contraire l'ALCA, qui est une ouverture en quelque sorte des frontières pour la pénétration massive des produits des pays développés de l'ensemble de l'Amérique, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et un peu le Canada. Donc avec aussi quelques articles concernant par exemple les Mapuches qui sont des indigènes de Chili, c'est très intéressant parce qu'on en parle peu alors que il y a une très grand dynamisme aujourd'hui, une grande combativité qui fait que le Chili est relié un peu à ces mouvements indigénistes très forts aujourd'hui que l'on a vu en Bolivie mais que l'on voit aussi, l'on a vu en Équateur et qu'on va voir également au Pérou lors des prochaines élections, et aussi des articles par exemple sur les apatistes, parce que ça faisait longtemps qu'on parlait pas des apatistes. Or le sous-commandant désormais délégué zéro a pris sa motocyclette pour parcourir le Mexique et pour animer un petit peu le débat autour de la prochaine élection présidentielle qui a lieu en juillet. Alors ça, c'est un dossier très important, mais effectivement, vous le soulignez à l'instant, le Monde diplomatique va publier, ce sera dans les kiosques le 20 février, un atlas, un nouvel atlas, totalement différent de celui qu'on a publié il y a 3 ans. Un atlas qui aura à peu près 200 pages avec 300 cartes. Et le cartographe principal, il y a eu toute une équipe de cartographes qui ont travaillé là-dessus pour présenter un peu le monde d'aujourd'hui tel qu'il est dans toutes ses problématiques. Et le cartographe principal, qui est notre ami Philippe Rekasevich, dont nos lecteurs connaissent les cartes, publie dans ce numéro du Monde diplomatique, pas dans l'Atlas, mais dans ce numéro du Monde diplomatique, une sorte de réflexion théorique sur ce que sont les cartes. Et précisément, comme vous le soulignez, ce qu'il indique, c'est que quand on voit une carte, on se dit, c'est scientifique, une carte, c'est un petit peu comme si on avait le point de vue de Dieu, n'est-ce pas ? On regardait la Terre, et puis ça, les différences, les écarts, les signalements apparaissaient de manière indiscutable. Et Rekasevich montre bien, en choisissant un certain nombre d'exemples, que pas du tout, que les cartes sont très souvent idéologiques. Et que, bien entendu, il s'agit essentiellement d'imposer son point de vue, et de l'imposer par le biais pseudo-scientifique de la carte, au plus grand nombre, d'abord à sa propre opinion publique, et ensuite au monde entier. Par exemple, il rappelle tout le débat qu'il y a autour de ce qu'on appelle le Golfe. On dit bien la guerre du Golfe, alors que des Golfes, il y en a partout. Il est évident que c'est pas la guerre du Golfe de Biscaye, par exemple, ou c'est pas la guerre du Golfe du Mexique. Bon, pourquoi on dit la guerre du Golfe ? Est-ce qu'il y a un Golfe comme ça, par définition ? Pas du tout. Si on peut pas le préciser, c'est parce qu'il y a un grand débat idéologique, politique, historique, entre d'une part l'Iran, et ce que représente l'Iran, qui se bat pour que ce golfe soit désigné, selon l'expression ancienne, le golfe persique, c'est-à-dire le golfe de la Perse, bien entendu, et l'Iran interdit toute publication pénétrant dans le pays, de quelque nature que ce soit, qui porterait l'appellation golfe arabique, par exemple, qui est l'autre terme que veulent imposer, qu'a voulu imposer l'Arabie Saoudite, et que veulent imposer un certain nombre de pays arabes. Donc il y a un débat. Est-ce qu'il s'agit du golfe persique ? Est-ce qu'il s'agit du golfe arabique ? Eh bien, la plupart des pays occidentaux qui ne veulent pas être mêlés à cette polémique ont tranché en disant, on appelle ça le golfe sans adjectif, sans qualité. Voilà. Donc, par conséquent, l'auteur montre bien, et c'est un papier tout à fait passionnant à lire, pour ceux qui s'intéressent à la géographie, que faire des cartes, c'est à la fois un art, vous le disiez, bien sûr, il y a des cartographes plus ou moins doués, c'est aussi une science, indiscutablement, puisque ça relève de rapports qui sont quasiment scientifiques, et c'est aussi, bien entendu, une idéologie qui donne lieu à toutes sortes de manipulations.
Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Alain Grèche, Bernard Cassin et Anne-Cécile Robert. Demain, rendez-vous à 14h, place de la Bastille à Paris. C'est Pascal Pascariello qui vous donne rendez-vous. Moi, j'y suis pour rien, évidemment. À 11h30 à Marseille, sur le Vieux-Port. À 15h à Strasbourg, place Kléber. Je sais pas comment elle fera pour être dans tous ces endroits à la fois. En tous les cas, aujourd'hui, la technique, c'était Carole Sandevoir et Clément Léotard. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello, qui a mis tous les titres des musiques de vendredi sur le site de France Inter. Le répondeur, c'est Christophe Imbert, qui en a la lourde charge, dont le numéro est 01 56 40 37 37. Réclame.